Bonsoir. Le commandant de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le général-major Jeff Niaga, a déclaré samedi 22 avril dans une conférence de presse à Goma que le retrait du M23 des zones occupées ainsi que le cantonnement des combattants de ce mouvement rebelle sont des questions politiques qui ne relèvent pas du mandat de la force militaire EAC-RF. Certaines de ces questions relèvent plutôt du mécanisme ad hoc de vérification. Il a évoqué à cette occasion les défis auxquels sont confrontées ces troupes dans la zone des déploiements, notamment dans le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, dans le nord Kivu. Ces défis concernent, selon le général-major Jeff Niaga, le retrait partiel du M23 de la zone qu'il occupe, l'activisme d'une centaine de groupes armés et l'impréparation des sites de pré-cantonnement des rebelles du M23. Il appelle la population à la patience stratégique en garantissant que le mandat de l'EAC est de restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays tout en assurant l'intégrité du territoire national de la RDC. Quelle lecture faire des propos du commandant de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est et à son sigle? Nous en parlons ce soir avec Timothée Chaombo Soucha. Il est chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Timothée Chaombo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly Nkoute. Bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent.
Professeur Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et Université catholique Graben de Butembo. Professeur Augustin Mouessi, bonsoir.
Bonsoir Madame, bonsoir aux co-débatteurs et à tous les auditeurs de la radio.
Et Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est aussi consultant indépendant des questions internationales. Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir Madame et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kati.
À Goma, au nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Dans la province du Nord Kivu, face à la presse, le commandant de la force régionale de l'EAC parle des défis auxquels sont confrontées ses troupes dans la zone de déploiement. C'est notamment dans le territoire des Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Ce défi concerne, selon Jeff Niaga, le retrait partiel du M23 de la zone qu'il occupe, l'activisme d'une centaine de groupes armés et l'impréparation des sites de pré-cantonnement des rebelles du M23. Il a dit au cours de la conférence de presse animée conjointement samedi à Goma avec le gouverneur du Nord Kivu, Bernard Danyangi, pour le reportage.
En plus de ces défis, le général Niaga évoquait aussi des allégations faisant état du maintien des éléments M23 habillés en civil dans les zones où ils sont supposés s'être déjà retirés. Il estime que ces défis sont pour la plupart politiques, alors que d'autres relèvent non pas de leur mandat, mais plutôt de celui du mécanisme ad hoc de vérification.
Cela ne relève pas de notre mandat de répondre aux questions politiques. Qui est congolais et qui ne l'est pas? Les M23 sont-ils en train de se retirer? S'orientent-ils vers le mont Sabinho? Y a-t-il des infrastructures d'accueil sur les sites de cantonnement à Sabinho? Ce que nous souhaitons, c'est que le cessez-le-feu continue, que les routes principales soient ouvertes, Bunagana, Kibumba, Goma, Kichanga, Kilorirwe, Goma. Et trois, que les groupes armés soient contrôlés. Ils sont très nombreux, plus de 120, et chacun vient avec un dynamique et défis différents.
Le général Niaga précise que la solution aux conflits armés dans l'Est de la RDC est un processus et non un événement. Il appelle la population à la patience stratégique en garantissant que le mandat de l'ESRF est de restaurer la paix et la sécurité dans l'Est, tout en assurant l'intégrité du territoire national de la RDC.
Professeur Augustin Mouissi, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Goma et à l'Université catholique Graben de Butembo. Vous avez suivi le commandant de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui a déclaré le week-end dernier dans une conférence de presse à Goma que le retrait du M23 des zones occupées ainsi que le cantonnement des combattants de ce mouvement rebelle sont des questions politiques qui ne relèvent pas du mandat de la force de l'EAC, mais plutôt du mécanisme ad hoc de vérification. Comment vous analysez ces propos? Professeur Augustin Mouissi? Je crois qu'on a un souci avec la ligne du professeur Augustin Mouissi. La réalisation va essayer de le rappeler. Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes aussi consultant indépendant des questions internationales. Quelle lecture vous faites des propos du commandant de la force régionale de l'EAC?
Merci beaucoup pour la parole et l'invitation, Madame Kelly. Je salue aussi les co-débatteurs Monsieur Timothée Chaoumba et le professeur Augustin, ainsi que le millier des auditeurs de Radio Kati. Alors, les propos du commandant de la force régionale de l'EAC, le général-major Jeff, est un aveu d'échec. Un aveu d'échec dans la mesure où je note une contradiction dans ses propos. Parce que d'un côté, il affirme que les retraits et le cantonnement de M23 est question politique et que la force régionale n'a pas réussi ce mandat ou cette mission de s'occuper du retrait des M23. Mais qu'est-ce que la force régionale alors est venue faire? Et ce jeu de ping-pong entre la force régionale, l'organisation EAC et aussi les autorités du pays, c'est-à-dire de la RDC, dénote, n'est-ce pas, de l'échec de cette organisation à appuyer ou accompagner la RDC dans les efforts du maintien de la paix et de la sécurité dans cette partie meurtrie. Pourquoi contradiction encore? Parce que il y a une volonté manifeste dans ces dires de ne pas contribuer à la résolution de cette crise, mais plutôt de les gérer. Parce que lorsque vous lisez que ce soit la feuille de route de Luanda ou les communiqués finaux de pourparlers de Nairobi, vous vous rendez compte que la force régionale ne fait pas la mission pour laquelle elle a été, n'est-ce pas, envoyée sur les sols congolais.
Il y a déjà un flou sur la mission même, hein, ou le mandat de cette force en RDC. Quand vous suivez les propos des responsables de la force, ils vous disent que la force n'a pas un mandat offensif, alors que du côté de dirigeants congolais, on vous dit que la force a un mandat offensif.
Merci beaucoup, madame. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que c'est un aveu d'échec, les propos, mais aussi une contradiction et il y a un jeu de ping-pong. La force régionale refuse ne pas avoir le mandat d'ouvrir le feu vis-à-vis du M23, mais le gouvernement congolais affirme avoir lu dans le communiqué que la force a réussi le mandat offensif. Et cet imbroglio-là sème, n'est-ce pas, la panique pour la population. Donc, je crois que comme le mandat de cette force a expiré, il va de l'intérêt du gouvernement congolais de souhaiter le départ de cette force et de continuer à se réorganiser au niveau interne. Il y a déjà un nouveau gouvernement avec un nouveau ministre. Je crois qu'on va apporter un nouveau tonus pour que la force congolaise ou les FARDC et les institutions du pays s'attellent ou s'activent pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie. Mais un autre élément, le propos du général vienne confirmer l'inaction ou, si vous voulez bien, l'incapacité de cette organisation à laquelle appartient la RDC, donc East Africa Community, qui n'a pas jusqu'à aujourd'hui condamné le soutien rwandais ou ougandais par rapport à ce qu'ils font vis-à-vis du M23, mais aussi son incapacité à contraindre le M23 au cessez-le-feu selon la lettre et l'esprit de la feuille de route de Luanda et
et l'accord de Nairobi. On risque de continuer à tourner avant, pensant que le salut proviendra de cette force régionale incapable jusqu'aujourd'hui, et alors que cette force est venue peut-être, excusez-moi les termes, pour un agenda caché, et que cet agenda caché serait en train d'être utilisé, parce que lorsque vous lisez que l'M23 se retire de certaines localités, mais c'est le même M23 qui contient d'autres localités, mais malheureusement, l'M23 refuse. Quand même, c'est paradoxal. C'est ça même le flou et le jeu de ping-pong que et la force régionale et l'EAC et même le 1-23 veulent jouer vis-à-vis de la RDC. Comment se fait-il que la feuille de route a été signée dans laquelle il a été clairement dit qu'il faut le cessez-le-feu et le retrait du 1-23 des zones occupées? Mais cette force négative qui refuse quand même à un gouvernement établi, à un pays souverain, d'accéder aux localités déjà libérées. Allez-y comprendre, comme tu dirais, excusez-moi l'expression, il y a un agenda caché que et la force régionale et le M23 veulent appliquer, malheureusement. Voilà pourquoi j'invite le gouvernement congolais à beaucoup plus de prudence et surtout à souhaiter le départ le plus tôt possible de cette force régionale qui a montré ses limites et son incapacité de contribuer ou d'accompagner les efforts du gouvernement congolais pour la paix.
Alors, donc, il en a profité aussi lors de ce point de presse pour évoquer les défis auxquels sont confrontées ces troupes dans la zone de déploiement. C'est notamment dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Alors, selon le général Jeff Nyaga, il y a ces défis du retrait partiel du M23 de la zone qu'il occupe, l'activisme d'une centaine de groupes armés et l'impréparation des sites de pré-cantonnement des rebelles du M23. Donc c'est tous ces défis-là qui ne permettent pas à la force régionale de mener à bien son travail ou sa mission.
Mais, excusez-moi madame, une autre distraction ou une autre faiblesse vis-à-vis de cette force. Pourquoi? Parce que voilà pourquoi je crois l'avoir dit, et la répétition est la mère des sciences, dit-on. Je crois avoir dit que cette force n'apportera pas et apportera des malheurs que des bonheurs. Les défis auxquels cette force est confrontée montrent aussi la précipitation avec laquelle, je préfère le dire, la précipitation avec laquelle, d'un côté, le gouvernement congolais a accepté le déploiement de cette force, mais aussi de l'autre, les forcing que l'EAC, sous le leadership de l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, a forcé à déployer cette force. Parce que, c'est vrai, les défis, il y en a et il y en aura toujours, mais si une étude minutieuse devrait être menée avant le déploiement de cette force, je crois qu'on ne serait pas habité à ces difficultés-là. Donc, moi, je pense que le gouvernement congolais devrait étudier et sa présence au sein de l'EAC qui ne lui apporte pas grand-chose, et aussi la présence de cette force sur le sol congolais qui a un agenda caché qu'on ne sait pas encore, mais qu'on va découvrir bien avant. Donc ces défis sont là parce qu'il n'y a pas eu une préparation ou une étude minutieuse bien avant. Et du côté gouvernement et du côté de l'organisation et de la force régionale. Malheureusement, c'est la population qui en paie le prix. Lorsque vous suivez les commandants, il dit qu'il appelle la population à une patience stratégique. Quelle est cette patience stratégique? C'est cette population qui va continuer d'abord à mourir et à ne pas vaquer à ses occupations. Mais entre-temps, les 1-23 continuent à conquérir d'autres espaces. Et cela, c'est une stratégie que le M23 a mis en place. Pourquoi? Parce que pour le M23, il veut un dialogue ou une négociation avec le gouvernement congolais. Pour le gouvernement congolais, on ne veut pas entendre parler de cette question de dialogue. Pourquoi? Parce que le M23, c'est ça, excusez-moi le terme, c'est ça en position de force tant qu'il occupe certaines localités. Alors, tant que le gouvernement congolais n'a pas accédé à sa demande, des négociations ou des dialogues, selon le format qu'ils vont établir, eh bien, le M23 continuera à jouer au jeu de cache-cache. il se retire d'une localité et il conquiert d'autres localités sous la bénédiction, malheureusement, de cette force régionale et de ses parrains, le Rwanda et l'Ouganda.
Timothée Tchaombo, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique, quelle analyse vous faites de la déclaration du commandant de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est?
Oui, je vais d'abord saluer mes co-débatteurs Augustin Mouichi et Frédéric Kamani. La première des choses, c'est que il faut constater, il faut savoir et noter en même temps que le M23 ne se retire pas. Le M23 se cache derrière quelques 2-3 kilomètres et lorsque cette population circule dans les champs, etc., la présence est toujours visible. Deuxièmement, il faut noter que tant le commandant des troupes kenyanes qui affirme qu'il y a des questions politiques à résoudre, que la communauté internationale qui insiste sur la nécessité des règlements politiques, sont entrés en quelque sorte de rejoindre l'attitude et les propos du président Kagame qui, politiquement et publiquement, a dit qu'il y a un sérieux problème de terre qu'il faut récupérer en République démocratique du Congo. Le problème se situe à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, premier élément qu'il faut soulever, aujourd'hui, le M23 est vidé de tout son contenu, de toute sa substance. Premier élément que je veux dire dans ce sens-là, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des Congolais, mais c'est un mouvement totalement d'agression. Et que donc le gouvernement congolais doit avoir une seule narration, à savoir l'agression, et non un mouvement terroriste ou mouvement rebelle. Ce ne sont pas des rebelles, c'est un mouvement d'agression avec motif de prendre les terres. Je reviens à la déclaration très grave du commandant kényan, dont je constate la mutation même de la nature de cette mission-là. Votre mission a un caractère pédagogique. Je vais aller ici par la politique des approches comparées. Les Nations Unies, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a envoyé en République démocratique du Congo la MONUC, mais qui s'est muée MONUC, MONUSCO aujourd'hui, avec un, le nombre de troupes, équipement, financement, cartographie, la compétence, cartographie ici, c'est la compétence territoriale, à partir d'où, comment et quand, et la compétence matérielle, quelles sont les questions que les Nations Unies, les casques bleus et tout son système devaient connaître. On constate malheureusement, ce qui concerne la mission EAC en République démocratique du Congo, qu'au départ c'était une force avec mandat offensif, ça veut dire de neutralisation des groupes armés, tant au niveau de communiqué de Luanda, premier communiqué de Luanda, de Nairobi, d'Addis Abeba, etc. C'était une mission qui avait ce qu'on appelle en latin le ius puniendis, la force de contrainte. Et après, ce n'est plus la force avec mandat offensif, ça devient une force d'interposition. Et puis quand on pose la question, mais interposez-vous, on dit non, nous n'en avons pas comme pour mandat de pousser le M23 au retrait. Donc c'est le M23 qui doit juger des camps, comment il peut se retirer. Mais essayez de cantonner quand même le M23. On dit non, nous n'avons pas le mandat de cantonner le M23. Finalement, quel est le mandat, et Frédéric Kamani l'a bien posé, quelle est la mission, quelle est l'utilité de la mission des troupes DAC en République démocratique du Congo. Deuxième élément d'analyse, Madame Kelly.
Mais le général s'est posé quand même une question assez importante, celle de savoir s'il y a des infrastructures d'accueil.
Mais si la mission, pour répondre à votre question immédiatement, si la mission n'a pas, la mission DAC en RDC, n'a pas pour mandat la force de contrainte, mandat offensif, si ils ne peuvent pas aider au retrait du M23, s'ils ne peuvent pas aider au cantonnement du M23, ben, cette mission pouvait aider la République démocratique du Congo, même sur le plan technique, aménager des sites où on peut accueillir à Nyabindo, là où on peut accueillir les éléments du M23. Si sur le plan technique, sur le plan opérationnel, sur le plan militaire, ils ne peuvent rien faire, et alors, quelle est l'utilité finalement? J'ai terminé par un petit élément, Madame Kelly, si vous permettez, en 5 secondes. Il y a un problème de confusion, il y a un problème de supposition des organisations sur ce qui concerne la crise du Kivu. Vous avez la RDC qui a sa mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État, mais vous avez aussi la MONUSCO qui a toute sa logistique qui est là. Vous avez l'EAC qui vient de superposer, mais vous avez aussi l'Union africaine. Finalement, pourquoi est-ce que l'EAC va prendre comme mission la sécurité, l'intégrité de la RDC, restaurer la paix,
alors que nous avons la plus grande mission des Nations Unies au monde, qui a exactement pour mission la stabilisation de la République démocratique du Congo, avec d'ailleurs un chapitre offensif, au chapitre 7, un mandat offensif. Si l'EAC n'a plus d'utilité, je ne vois pas ce que cette communauté peut faire, alors que tout ce qu'elle peut faire, les Nations Unies ont la logistique, le personnel et les options qu'il faut. Moi, je crois que le nouveau gouvernement, Samadeu, à travers le vice-président de la Défense, ministre de la Coopération régionale, ministre de l'Intérieur, doivent évaluer de la nécessité de la présence de cette mission, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de l'impréparation dans le déploiement de cette mission qui risque, je termine par là, peut-être que dans les jours qui suivent, cette mission peut se muer d'une mission d'interposition à une mission totalement à des troupes belligérantes ou FRDC, auquel cas il y aurait des affrontements entre quelques unités de FRDC et les unités de EAC, et c'est les Nations Unies qui vont s'interposer, et finalement les États de l'EAC vont venir parce que leurs troupes se sentent agressées dans un pays en mission. Fini, nous sommes en train de constater à ce moment-là une sorte de naissance d'une zone totalement incontrôlée comme ça l'est aujourd'hui, totalement incontrôlée par la République démocratique du Congo. Et ce sera la balkanisation de ce pays.
Professeur Augustin Mouhessi, professeur de sciences politiques à l'université de Goma et université catholique Graben de Butembo, après la sortie du commandant de la force de l'EAC, certains Congolais pensent que le gouvernement congolais a été roulé dans la farine et il est allé sur un terrain glissant dont il ne maîtrise pas le contour.
Oui, en fait, lorsque le gouvernement demandait à la force régionale de venir au Congo, c'était effectivement de bonne foi, mais l'on peut se rendre compte qu'au fur et à mesure des jours passent, cette bonne foi est remise en question par un certain nombre de faits qui ne font que se produire sur le terrain, en fait, notamment le retrait timide des rebelles du M23. Et je crois que cette situation peut être expliquée par un certain nombre d'acteurs, c'est que alors qu'il est, j'ai l'impression qu'il y a toujours des regards différents vis-à-vis la manière dont il faut sortir de la conflictualité, et des regards qui ne sont pas les mêmes lorsqu'on regarde en fait le point de vue des différents acteurs. D'un côté, il y a effectivement la communauté sous-régionale qui voudrait qu'à part le retrait de Rebet du M23, qu'il y ait également un processus politique qui consisterait à voir peut-être le gouvernement dialoguer d'une certaine manière avec les rebelles du M23 sur certaines questions, et le gouvernement qui ne voit pas les choses de cette manière-là. Mais aussi, il y a effectivement, à part ces regards différents, il y a des approches différentes et qui sont aussi justement confortées par cette divergence est confortée par effectivement des difficultés aussi des techniques, puisque lorsque les commandants évoquent justement les problèmes liés au cantonnement, je semble croire que de ces côtés-là, il y a aussi un problème lié aux finances, donc aux finances justement de l'ensemble des processus, d'un certain nombre d'actions qui doivent accompagner effectivement ces actions qui doivent accompagner ces processus. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait aussi un problème de moyens qui rend difficile l'opérationnalité ou la mise en application d'un certain nombre de décisions. Et on peut se rendre compte qu'au-delà justement de ces difficultés, de ces contraintes financières, à mon avis, il y aurait également aussi le fait que, par le fait qu'il y a justement des approches différentes, on voit effectivement le point de vue des acteurs qui continuent à diverger. On a vu effectivement, et là on pourrait se dire finalement que les rebelles, quelque part, sur le plan politique, continueraient d'être endettés par justement leur pari rwandais. Lorsqu'on voit un peu les dernières déclarations qu'il a faites justement au niveau, le président rwandais au niveau du Bénin. Mais également, on voit que par rapport à cette divergence, le président congolais qui a récemment déclaré qu'il était des questions de pouvoir, n'est-ce pas, négocier avec les rebelles du M23. Et donc, moi, j'estime qu'au niveau où la crise il se pose un problème fondamental, c'est que les deux acteurs majeurs, à savoir le président rwandais et le président congolais, ne se sont pas jusque-là parlé publiquement, à moins qu'ils ne le fassent à coulisses, et la communauté internationale semble n'avoir pas beaucoup fait pour effectivement amener ces deux acteurs majeurs qui peuvent trouver d'une manière ou d'une autre une solution, qui peuvent désamorcer la situation, à pouvoir se rencontrer. À chaque fois qu'il y a eu des réunions, ce soit le président congolais qui est allé et le président rwandais n'est pas parti. Et dans l'entretemps, ils se sont illustrés par des propos qui ne sont pas, en tout cas, faiseurs de paix. Donc moi, j'estime que de ce côté-là, on n'a pas beaucoup travaillé, mais et justement dans ce contexte où les acteurs, chacun campe sur son camp, il y a également une certaine allégeance, effectivement, de la force régionale qui continue à caresser un peu et donc les rebelles du M23 et qui se disent, bon, écoutez, comme certainement ils avaient des revendications dès le départ, qui se disent, dans ce statu quo, essayons de jouer à l'hypocrisie pour faire gagner le temps en essayant de voir, restons sur la défensive, en essayant de voir comment les choses vont pouvoir évoluer. Et donc, de ce côté-là, à mon avis, les lignes n'ont pas bougé sur le plan politique, et c'est ce qui fait que justement, et même d'ailleurs, il y a eu certaines réunions qui étaient proposées, qui étaient préconisées, qui étaient prévues, notamment la réunion de Goma qui devait évaluer en fait la mission de la force régionale, mais aussi définir son mandat. Ces réunions-là n'ont pas eu, beaucoup de réunions n'ont pas eu lieu, il y a eu des ratés, on a annoncé d'autres réunions qui devaient faire qui devait être la suite, n'est-ce pas, consécutive de Nairobi 3, mais qui n'ont toujours pas eu lieu. Et donc, il y a un dysfonctionnement, à mon avis, généralisé, qui ne fait pas exécuter, en fait, qui ne repose pas sur les chronogrammes.
Alors, au stade actuel, professeur, quelle serait la solution? Du côté de la force régionale, on a l'impression que cette force privilégie plus la solution politique plutôt que militaire. Faut-il finalement demander au gouvernement congolais de négocier avec le M23 ou utiliser carrément la force pour en finir avec le mouvement M23?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs scénarios, à mon avis, par rapport à votre question. Le premier scénario consisterait à voir le gouvernement remplir sa mission constitutionnelle, c'est-à-dire se prendre à charge. Et là, de ce côté, on a l'impression que le gouvernement semble ne pas vraiment prendre les choses au sérieux dans ce cadre-là, parce qu'on entend souvent les responsables du gouvernement donner l'impression qu'ils se plaignent que l'M23 ne puisse pas se retirer ou ne respecte pas la ou les promesses de retrait. Donc ça serait ça le premier scénario, mais on a l'impression que c'est pas à l'ordre du jour. Le deuxième serait de voir la communauté internationale se mobiliser pour doter effectivement le processus qui est en cours, le processus de retrait des moyens, et permettre à ce que le mécanisme de vérification effectivement soit fonctionnel, mais également les moyens permettraient à ce que effectivement on fasse une réunion d'évaluation pour pouvoir non seulement se rendre compte des avancées, des faiblesses de la force régionale, et à l'issue de cette évaluation, on décide soit on pourrait renouveler effectivement les mandats de la force régionale au Congo et essayer effectivement de transformer ces mandats à un mandat au passif. Et à ce moment-là, parce que la question principale, c'est qu'en fait, je constate que comme il n'y a pas de pression militaire sur les M23, alors il s'est dit, on ne peut pas partir parce qu'il n'y a pas de pression militaire, on ne peut pas partir sur base de la simple parole, la simple pression verbale qu'exerce la communauté internationale. Encore faut-il dire d'ailleurs que cette pression-là, on a l'impression qu'elle va diminuer en fait. Et donc je crois que ce sont les scénarios possibles pour le moment. Mais pour que cela fonctionne, il aurait fallu effectivement que la communauté internationale arrive à mettre autour d'une table effectivement les différents protagonistes dont j'ai parlé et essayer de les convaincre à mettre un peu d'eau dans leur vin, ou alors à essayer de les amener sur le chemin de la construction de la paix dans la sous-région.
Les auditeurs sont très nombreux à appeler pour participer à cette émission. On va se rendre dans la ville de Bukavu pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Ça sera pour vous, Frédéric Kamani.
Patrice Mondero, Kulimushi, je vous appelle depuis Bukavu, au sud Kivu. Si les forces régionales de l'EAC n'ont pas comme mandat d'amener les rebelles du M23 à libérer les zones qu'ils occupent, par là, on sait que les M23 n'ont pas une pression derrière eux et que c'est par leur propre volonté qu'ils libèrent progressivement les zones occupées. Alors, en quoi le fait d'attendre à ce que l'M23 libère les zones qu'ils occupent intérieur et de la part des forces régionales de l'EAC peut-il restaurer la paix? Est-ce que cette façon d'agir de la part des forces régionales de l'EAC n'est pas un signe de faiblesse et ou encore un signe d'hypocrisie?
Frédéric Amani, le prof l'a dit aussi, il a parlé de cette pression. Il n'y a pas cette pression sur le M23. Alors, il se demande si cette façon d'agir de l'EAC n'est pas signe de faiblesse ou encore signe d'hypocrisie.
Bien, merci beaucoup pour l'auditeur de Bukavu, M. Patrice Mondéroy. Et je crois qu'il a raison aussi ce que nous avions dit avant. Et cette pression ne doit pas seulement venir de l'extérieur, mais cette pression doit aussi venir de l'interne. C'est-à-dire, il faut que l'État renforce sa capacité d'un État garant, d'un État capacitaire, passez-moi la redondance, mais aussi une pression externe, bien sûr, mettre la communauté internationale ou la communauté régionale face à ses responsabilités. Il vous souviendra que c'est sous la médiation du président angolais que la feuille de route a été signée pour la désescalade entre les deux États. Mais où est-ce que nous en sommes? Je crois que la RDC est sautée sur cette question pour interpeller la communauté internationale et régionale à ce qu'on peut qualifier d'un jeu des poids, des mesures. On veut faire pression seulement à la RDC d'accepter une solution politique, mais cette même pression, on ne la fait pas vis-à-vis du Rwanda, au sein duquel il y a aussi les FDLR, vis-à-vis de l'Ouganda, au sein duquel il y a aussi les ADF. Je crois que la pression est importante. Cette pression doit être interne par la RDC en renforçant l'autorité de l'État dans cette partie, en réorganisant l'armée et les institutions concernées, mais aussi interpeller la communauté internationale ou régionale face à ses responsabilités, parce que c'est cette communauté régionale qui a été, si vous voulez bien, parrain de cet accord, la paix des routes de Luanda, sous la médiation du président Lorenzo.
Timothée Tchaombo, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Moi, c'est Benjamin Melima Melingo, je vous appelle à partir de Kisangani. J'ai l'impression que le gouvernement congolais a été roulé dans la farine. Il est allé dans un terrain glissant dont il ne maîtrise pas le contour. Pourquoi cette force refuse-t-elle de faire l'évaluation? Nous demandons aux autorités d'exiger avec véhémence l'évaluation des coopérations militaires qui ne contribue pas au maintien de la paix dans la partie Est. Et nous devons réfléchir comme des hommes, car nous avons toutes les formes de force dans notre pays et la paix n'est pas toujours au rendez-vous. Nous avons la munition, la mutualisation des forces entre le FRDC et l'UPDF, l'armée ougandaise, la force régionale de l'EAC, dont le résultat reste hypothétique jusqu'à ce jour. Nous recommandons aux autorités de réformer l'armée et de l'équiper pour faire face à cette menace qui n'a que trop duré.
Timothée Tchaombo, réaction.
Benjamin a parfaitement raison. J'ai même soulevé cette question d'évaluation précédemment lors de ma première intervention. Il est temps de...
Effectivement, une réunion a été prévue justement pour faire cette évaluation, mais malheureusement, elle a été reportée à une date ultérieure parce que, selon certaines sources, le Rwanda s'est dit être en danger en venant en RDC participer à cette réunion.
Les lieux peuvent être indiqués autrement, ça ne peut pas qu'être à Goma, ça peut être à Luanda, ça peut être à Nairobi, à Addis Abeba. Le lieu peut être là où le président rwandais pourra se sentir en sécurité. Mais lorsqu'ils iront là-bas, il faut évaluer sur la mission exacte, les mandats, savoir si cette mission vient faire quoi. Et si cette mission vient faire quoi d'autre que la MONUSCO ne peut pas faire. Deuxièmement, je suis content de l'intervention de Frédéric Kamani, qui a parlé de pression. La pression ne viendra pas que de la communauté internationale. D'abord, vous voyez déjà que le Rwanda viole carrément l'article 6 des principes fondamentaux de la charte de East Community Africa. Et aucun État de cette communauté n'a levé une seule voix pour condamner
les récents propos du président Paul Kagame. Donc, la pression ne viendra pas de la communauté internationale. Si cette pression viendra, c'est au regard de ce que l'État congolais aura mis en place pour pousser le Rwanda, parce que c'est le véritable interlocuteur de la RDC, pour pousser le Rwanda à la table de négociation. Je vous donne quelques cas qui peuvent pousser le Rwanda. Nous pouvons stopper, suspendre notre participation à East Community Africa. Nous pouvons suspendre notre participation à la francophonie. Là, c'est pour inviter la France à hausser un petit peu le ton. Nous pouvons suspendre notre participation à la CIRGL pour amener toute la question au niveau de l'Union africaine. À ce moment-là, sur la table, nous nous mettrons tous et cette évaluation pourra avoir lieu. Si à ce moment-là, l'État congolais ferme carrément ses frontières avec le Rwanda parce que l'agression est avérée, Paul Kagame l'a dit clairement, qu'il vient pour chercher les terres, si nous suspendons notre participation à East Community Africa, nous suspendons notre participation à la francophonie, ce sont les quelques éléments diplomatiques de pression à l'interne et inviter tous les éléments, je veux dire tous les États qui sont partenaires de la République démocratique du Congo à travers leurs ambassades à Kinshasa, de hausser leur ton, de condamner le Rwanda et nous pouvons, vous ne pouvez pas aujourd'hui à l'époque où nous avons vu les choses arriver, vous ne pouvez pas travailler, avoir des relations diplomatiques avec Israël si vous ne reconnaissez pas le génocide et tout ce qui s'est passé en Allemagne. Nous aussi, nous sommes à plus de 10 millions de morts. La RDC doit quand même avoir un narratif et une diplomatie pour savoir convaincre tous les États qui sont partenaires de notre pays de dire, tiens, vous voulez venir en coopération chez nous, mais nous avons un problème existentiel. Nous ne savons pas avoir accès à tous nos territoires parce qu'un voisin soutenu par une grande partie de la communauté internationale déstabilise le Kivu. Donc, qui est notre allié parlera aussi en notre nom. Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une diplomatie de coopération, mais une diplomatie de condamnation. Un dernier élément que j'ai voulu souligner, c'est que il faut déjà voir si nous ne pouvons pas réduire le nombre d'acteurs dans les conflits du Kivu, parce que les Nations Unies ont tous les éléments, ont toutes les options, ont toutes les missions de faire ce que East Community Africa est en train de faire. La CIRGL a toute la mission de faire exactement ce qui est en train d'être fait. Nous sommes dans une forme d'enlisement et comme l'a dit l'auditeur, il y a eu l'impréparation. Moi, j'ai eu la chance de participer avec mon professeur sur l'intégration de la Croatie au sein de Schengen, une procédure qui a pris plus de 7 ans. Vous savez, plus de 7 ans. Et il n'y a que le 1er janvier 2023 que la Croatie a intégré Schengen. Il y a une étude pour adhérer à une communauté. Quelles sont les études que nous avons menées? Pourquoi est-ce qu'on a si précipitamment invité le président de la République à signer, nos ministres des Affaires étrangères à signer, alors qu'au sein de cette communauté, vous avez des agresseurs, pas qu'un seul, pas que le Rwanda, vous avez des agresseurs qui ont des visées expansionnistes, qui aujourd'hui, à travers des missions dans notre pays, sont beaucoup plus en termes d'allégeance face à ces agresseurs qu'en véritable mission pour le maintien ou la restauration l'intégrité du territoire national. Il est temps, comme je l'ai toujours dit, on ne cessera jamais de le dire, de redonner, parce que ceci n'exclut pas cela, de redonner, pendant que nous sommes dans les négociations sur des phases politiques, sur des options diplomatiques, mais que la réforme que le président de la République a déclenchée, la réforme de l'armée et des services et des sécurités se poursuivent et que ce soit déployé parce que finalement, à un moment donné, il n'y aura peut-être que le seul langage militaire qui va l'emporter. Merci. Mais si nous allons dans une forme de la destination, je veux dire, de la cartographie d'une situation qui ne dit pas son nom, les dirigeants politiques actuels porteront la responsabilité de ce que va devenir la République demain, une fois que nous allons perdre définitivement le contrôle sur une grande partie du Kivu.
Professeur Mohesi, il y a Laurent Akanangai qui pense que cette question est trop sensible et politique. Comme l'a dit le commandant de la force de l'EAC, les autorités congolaises devraient donner leur position quant à ce. Malheureusement, c'est silence du côté des autorités congolaises.
Oui, évidemment, la question est trop sensible. Elle relève vraiment de la stratégie, de la politique, vraiment des États. Et même la survie de la République démocratique du Congo à chaque État dépend, mais aussi, quelque part, la survie du régime aussi. Parce que, vous imaginez, si on doit faire, par exemple, des élections dans ces contextes, mais aussi on pourrait envisager le fait qu'on pourrait ne pas le faire à la suite de ce qui se passe et qu'il y aurait peut-être quelque part des gains politiques qu'on peut tirer de part et d'autre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, je crois que le gouvernement communique suffisamment, même si parfois la communication peut servir aussi pour cacher ce que effectivement le gouvernement, ou ne peut pas dire, porter à la place publique ce que pense le gouvernement. Mais ce qui serait important face justement à cette situation qui n'a que trop duré, ça serait effectivement de voir le gouvernement essayer de jouer de tout son poids pour amener la communauté internationale, régionale ou internationale, je voulais dire, à redéfinir une nouvelle feuille de route, mais aussi à faire un véritable chronogramme pour un chronogramme d'activité qui devra être mené, mais aussi à définir ça évidemment les acteurs qui devront effectivement le faire. Mais cela ne peut fonctionner que si effectivement on mettait les moyens, donc les ressources nécessaires. Je vois un peu le temps comme ressource importante, parce qu'on a l'impression que les États qui essayent de bousculer pour que la paix revienne, ils ont leur propre agenda et on ne voit pas justement ces États essayer de prioriser cette question apparemment de la RDC. Donc il faut absolument remettre la question du retour de la paix sur l'agenda sous-régional, et cela nécessite effectivement une véritable volonté, mais qui ne peut être suscitée que par effectivement une politique de soft power du gouvernement qui doit pouvoir influencer les différents acteurs qui peuvent convaincre le Rwanda et même qui peuvent convaincre aussi les autres acteurs à pouvoir pousser effectivement le régime rwandais à revenir n'est-ce pas dans le processus et essayer effectivement de faire avancer les choses après.
Merci professeur Moïssi, on va considérer cela comme votre conclusion. Frédéric Amani, la suite, comment vous l'entrevoyez? Le gouvernement devrait-il céder finalement à la demande du M23, c'est-à-dire discuter directement avec le M23 ou continuer à compter sur la force de l'EAC?
Le gouvernement congolais ne doit pas céder aux caprices du M23. Il revient, puisque la force régionale a montré son incapacité à contribuer aux efforts congolais pour la paix et la sécurité, et l'organisation à laquelle la RDC appartient n'a pas apporté le soutien dont la RDC a besoin, il est plus que temps, puisque sur le sol congolais il y a plusieurs armées, il est plus que temps que la RDC pense le retrait de cette force régionale et, au cas échéant, de se retirer des EAC. Deuxièmement, il faut que la RDC renforce son autorité de l'État, puisqu'elle n'a pas su jouer un rôle d'influence au sein des EAC, qui n'a pas aussi à son tour condamné le soutien rwandais et M23 et ougandais. Il est temps que la RDC se réorganise et compte sur ses efforts et sur ses alliés véritables, en mettant en place ce qu'on peut qualifier une diplomatie stratégique dotée d'une intelligence pragmatique.
Merci Frédéric Amani. Timothée Tchaombo, votre conclusion?
Mais ma conclusion, c'est que il faut que le gouvernement congolais puisse renverser les rapports des forces. Les rapports des forces vont se renverser d'abord par l'organisation de FARDC, de nos services spécialisés, mais également par les pressions internes que nous pouvons exercer. Nous avons ces capacités. On a rompu les relations, économiques avec le Rwanda. Il faut rompre totalement les relations diplomatiques, suspendre notre participation à l'East Community Africa, mais aussi à la francophonie, et puis élaborer une feuille de route sur East Community, voir si on va aller sur quelle mission avec eux, au besoin, leur inviter à retourner dans leur pays, parce que les Nations Unies peuvent jouer tout ce rôle que East Community peut jouer. Voilà.
Merci Timothée Tchaombo. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guimaté et Dona Madimba qui ont contribué à la préparation de cette émission. Martin Sebujangwe a supervisé ce programme. La mise en onde était assurée par Bob Landou. Présentation et coordination, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.